France Inter, le 18-20.
Une semaine en France jusqu'à 19h avec Daniel Schneiderman, fondateur de l'émission puis du site Arrêt sur Image, journaliste, critique média. Il publie au Seuil Berlin 1933, la presse internationale face à Hitler. Enquête passionnante sur le ratage du siècle, une déroute du reportage face aux nazis. Au sommaire également de cette émission réalisée par Benjamin Riquet avec Henri Bérec et Ronan Mahé et préparée par Jimmy Bourquin, le clip radio de la semaine écoulée, le reportage de la semaine, Maxence Lambrecht dans des villages oubliés qu'Emmanuel Macron va visiter dans quelques jours à l'occasion du centenaire de l'armistice de 14-18. 19h20, le téléphone sonne à 48 heures du départ de la route du Rhum à Saint-Malo avec 123 bateaux. Toutes vos questions sur cette course légendaire, ces marins solitaires qui défient l'Atlantique, 01 45 24 7000.
Pierre Veil, une semaine en France.
Daniel Schneiderman, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous publiez ce livre sur l'attitude des correspondants étrangers en Allemagne dans les années 30, c'est au Seuil. Berlin 1933, la presse internationale face à Hitler. Une plongée dans les archives de la presse anglo-saxonne et française de l'époque. Et le résultat est effarant, révoltant, insupportable, on peut dire ainsi.
Oui, absolument insupportable et d'autant plus surprenant, si vous voulez, j'ai étudié vraiment les journaux français, britanniques, américains, c'est-à-dire les journaux de démocratie qui étaient rédigés par des journalistes, donc des correspondants qui étaient en poste à Berlin et qui avaient théoriquement toute liberté de dire ce qu'ils voyaient et de raconter ce qu'ils voyaient. Et dès le début de l'arrivée d'Hitler au pouvoir, c'est-à-dire dès 1933, il y a quand même de nombreux signes, si vous voulez, qui auraient dû alerter la presse internationale. Hitler arrive au pouvoir le 30 janvier. Dès le mois suivant, 5000 communistes sont jetés sans jugement dans les premiers camps. Dès le 1er avril, il y a une journée de boycott des commerces juifs avec des SA plantés devant la porte de chaque commerce qui dissuade les Allemands d'y entrer. Donc, il y avait des signes forts. Et à ma grande stupéfaction, en ouvrant les collections des journaux à grand tirage de l'époque, hein, je me suis intéressé Paris Soir, le plus grand tirage de l'époque, le Daily Mail, le New York Times, donc vraiment je me rends compte que ça fait des brèves, sur un ton incroyablement froid et distant.
Des articles élogieux, complaisants, aseptisés.
Oui, aseptisés. Alors, pas toujours complaisants quand même. Certains, oui. Il y a quand même des journalistes qui aiment bien les nazis, qui aiment bien ce régime, qui veulent donner une chance à ce régime. Mais même, si vous voulez, des journaux ou des journalistes ne sont pas soupçonnables de complaisance avec les nazis, produisent au total une information... Enfin, qu'à ma grande stupéfaction, vraiment, je m'attendais à tout sauf à ça, quoi. Quand j'ai commencé l'enquête, j'ai découvert totalement désincarné.
Et dans ce livre, vous nous racontez la vie des correspondants étrangers à Berlin. Il y a une auberge, un bistrot à Berlin où ils se retrouvent. Vous racontez que ces correspondants ont des déjeuners, des dîners avec les nazis.
Bah oui, ils sont correspondants. De journaux dans un pays étranger. Donc, leur job de base, si vous voulez, c'est d'avoir des informations. Et pour avoir des informations, ils font ce que font tous les correspondants de presse depuis qu'il y a une presse et qu'il y a des correspondants. Ils essayent d'avoir des sources, et notamment des sources gouvernementales. Ce que font tous les correspondants. Alors, la seule particularité, si vous voulez, c'est que leur source à Berlin en 33, 34, 35 s'appelle Goebbels, s'appelle Göring. Ils se battent pour avoir évidemment une interview exclusive d'Hitler. Très peu réussissent à en décrocher. Et j'ai découvert alors toute une galerie de personnages, mais incroyables, que je soupçonnais pas du tout. Par exemple, le chargé de presse d'Hitler pour la presse anglo-saxonne. Il y a là un personnage, si vous voulez, qu'on appelle Pudzi, ça veut dire petit bonhomme, parce qu'en fait, il mesure 2 mètres, donc vous voyez déjà dans tout ça dans une atmosphère de franche camaraderie, et qui est chargé de vendre Hitler à la presse anglo-saxonne. en expliquant à quel point il est attaché à une bonne entente avec les États-Unis, à quel point tout ce qu'on dit c'est des calomnies, etc. Donc voilà, je découvre tous ces personnages.
Il y a des pages absolument stupéfiantes dans votre livre, par exemple cette interview de Hitler en juillet 1933, interview au New York Times réalisée par Anne O'Hare McCormick. Elle décrit Hitler, il apparaît timide et simple, et alors il y a cette question posée par cette journaliste américaine, je la cite, hein. Et les Juifs, à ce stade, comment évaluez-vous les aspects positifs et négatifs de l'antisémitisme ?
Oui, l'interview se passe très bien d'ailleurs. Jusqu'au moment quand même où elle parle des Juifs qu'à la fin de l'interview et là elle commence à sentir que Hitler est un peu tendu. Mais tout le reste de l'interview qui est sur sa politique économique, la manière dont il va relancer l'automobile, les autoroutes et tout, là on est entre gens qui se comprennent parfaitement.
Il y a le congrès de Nuremberg, là aussi, qui a dévoilé une Allemagne forte et trépidante. Là on cite encore les correspondants étrangers.
Français, ils sont tous très impressionnés, si vous voulez. Il y a un moment incroyable, c'est le congrès de Nuremberg en 35. 35, c'est le moment où Hitler fait passer les lois de Nuremberg, donc dites lois de Nuremberg parce que ça se passe justement pendant le congrès à Nuremberg. Et donc, c'est des lois qui vont mettre définitivement, si vous voulez, les Juifs à l'égard de la vie civile allemande. Donc, les Juifs vont être une population à part, vont perdre la nationalité allemande et vont être une population à part en Allemagne, avec interdiction de faire leurs courses en dehors de certaines heures, avec interdiction d'employer du personnel féminin de maison de moins de 45 ans parce que les Juifs, la presse nazie le répète à l'envi, sont des satyres qui sautent sur les femmes allemandes, etc.
Et là encore, dans votre livre, vous le dites, la presse internationale ne trouve pas les mots justes pour dire l'horreur de ces lois.
Ah bah c'est
l'indifférence.
C'est encore pire, ils n'en parlent pas, si vous voulez. Toute la couverture de presse du congrès de Nuremberg est consacrée aux défilés militaires qui sont très impressionnants. Et il n'y a pas un mot dans ce qui va tout de même passer à l'histoire comme les lois de Nuremberg. En lisant la presse de l'époque, c'est absolument stupéfiant.
Alors vous parliez de la presse française. Dans ce livre, vous rappelez qu'il y a quand même quelques journaux qui vont dénoncer ces horreurs nazies. L'humanité.
Oui, alors, attention, parce que j'ai beaucoup été interrogé là-dessus. On me dit comment, mais l'humanité, c'était Staline, etc. Oui, l'humanité, c'était Staline, bien sûr. L'humanité épouse l'agenda soviétique à l'époque. En même temps, quand on relit les journaux du début 33, 34, etc., ce qui est tout à fait frappant, c'est que toute la presse parle avec en enlevant son chapeau du chancelier Hitler qui a déclaré ceci, qui a déclaré cela. Le seul journal dans lequel on lit les mots barbarie hitlérienne, presse hitlérienne, régime hitlérien, c'est-à-dire le régime, la presse qui colle les mots sur les choses, c'est l'UMA. C'est l'humanité. Alors, sans doute parce que politiquement, si vous voulez, l'agenda politique de l'humanité lui commande, lui dit le régime hitlérien est un ennemi, c'est possible. Il n'empêche que c'est très troublant aujourd'hui de voir que les seuls papiers, j'allais dire, qui tiennent le coup à 80 ans de distance, c'est les papiers de l'UMA.
Alors la grande question, on va y venir, hein, c'est pourquoi cet aveuglement de la presse étrangère ? Alors, on peut penser que peut-être les journalistes qui étaient en poste à Berlin, ils disaient, ben voilà, c'est une dictature en marche, si on dit vraiment les choses, on va se faire arrêter, expulser.
Alors évidemment, si vous voulez, ça joue. Dès septembre 1933, il y a un journaliste particulièrement courageux et qui lui dit les choses, qui est le correspondant du Chicago Daily News, s'appelle Edgar Morer, je tiens à prononcer son nom parce que il me paraît injuste que ce nom soit oublié, qui dans son journal raconte vraiment le régime nazi et dit « l'Allemagne nazie est devenue un asile de fous ». Bon, en septembre 1933, il est expulsé, avec l'accord, il faut le dire, de l'ambassade américaine qui se couche devant l'exigence des nazis de l'expulser. Et c'est la première vraie défaite, si vous voulez, de la diplomatie américaine devant Hitler. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, ses confrères qui restent, ils savent bien quelle est la limite à ne pas franchir. Donc, même s'il n'y a pas de censure a priori, même si théoriquement ils écrivent ce qu'ils veulent, il y a une autocensure qui se développe. Mais c'est pas le seul phénomène qui explique la rétention. Il y a plein de choses. Moi, j'ai découvert plein de choses, finalement, en lisant leur livre de souvenirs après-guerre. Puisque après-guerre, ils ont tous écrit des livres de souvenirs pour s'expliquer, pour se justifier. Parce qu'après-guerre, on leur a dit ça. On leur a dit, mais vous avez rien raconté, qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, ils disent, il fallait peut-être lire entre les lignes. Quel argument?
Alors voilà, ils disent ça. Alors, certains disent ça. D'autres disent des choses plus honnêtes et plus troublantes. Certains disent, par exemple, mais enfin, tout un peuple était enthousiaste, marchait d'un même pas, avait retrouvé une raison de vivre après l'humiliation de la défaite de 18, après le traité de Versailles, etc. Les classes populaires, qui étions-nous, bourgeois, étrangers, vivant dans des appartements confortables à Berlin, qui étions-nous pour nous dresser contre tout un peuple? Et ça me paraît un argument particulièrement honnête, j'ai envie de dire.
Daniel Schneiderman est notre invité dans Une semaine en France. Daniel, tout de suite un retour sur quelques temps forts de l'actualité de ces derniers jours. Comme chaque vendredi, c'est le clip de la semaine, mixé par Benjamin Riquet.
On sait rien, on sait pas ce qui se passe, on n'avance pas. Il n'y a pas de gendarmerie, il n'y a pas de déneigeuse, il n'y a rien.
La neige a semé la pagaille lundi soir. Des centaines d'automobilistes et de routiers bloqués dans la Loire et la Haute-Loire. 1400 personnes hébergées en urgence. Bruno raconte après une nuit dans une salle des fêtes du Pertuis.
J'ai passé une bonne partie de la nuit complètement bloqué. Et les quais montent partout, des voitures partout. C'est vers minuit que les pompiers sont arrivés. Avec des 4x4, ils nous ont amenés dans une salle des fêtes. Et puis bon, ils ont servi du café, du chocolat. Et puis là, il y a tout le monde qui est en train de se lever un petit peu. Mais je vois que dehors, il y a encore bien 50 cm de neige. Donc, je ne sais pas si on va pouvoir repartir tout de suite, quoi.
Le procès devant le tribunal correctionnel d'Orléans de l'abbé Pierre de Castellet, accusé d'atteinte sexuelle sur mineur, et de l'ancien évêque de la ville poursuivi pour non-dénonciation. Un des plaignants s'appelle Olivier Salignac. Il avait 13 ans quand il a été victime du père de Castellet. Il dit ce qu'il attend de ce procès.
Le but vraiment pour nous, c'est qu'ils assument les faits, chacun. L'un par rapport à ce qu'il a commis sur ses enfants, et l'autre par rapport au fait qu'il n'a pas dénoncé, et surtout même le fait qu'il a protégé l'abbé de Castellet, c'est-à-dire que lorsque même on lui a conseillé de le dénoncer et de le mettre hors de portée des enfants, ce dernier n'a rien fait.
Le procureur a requis 3 ans de prison contre l'abbé et 1 an ferme contre l'évêque. À Lyon, le prêtre lanceur d'alerte sur les affaires de pédophilie, Pierre Vignon, sanctionné, renvoyé du tribunal ecclésiastique, il avait demandé la démission du cardinal Barbarin, poursuivi pour non-dénonciation d'agression sexuelle. Sur France Inter, la réponse de François Molins, ancien procureur de Paris, à Jean-Luc Mélenchon, qui accuse la justice d'être aux ordres du pouvoir politique. Après les perquisitions chez lui, un coup monté de l'Élysée, dit le chef de la France Insoumise.
Cette affaire, on n'est pas allé la chercher. Elle est venue au travers de 3 signalements, une dénonciation, un signalement de Tracfin, un signalement de la commission des comptes de campagne qui nous ont conduit à ouvrir 2 enquêtes. Dans le cadre d'enquêtes financières, tout le monde sait qu'on a besoin de perquisitions. Il y avait un certain nombre de sites, donc ça a été un peu compliqué à organiser. Ces perquisitions, nous n'en avons parlé à personne. Personne n'était au courant. Et je pense que les conditions dans lesquelles effectivement ça s'est passé, c'est la preuve vivante effectivement de l'indépendance de la justice et de son impartialité dans ce dossier.
Ce que je peux enfin vous dire, le dernier livre de Ségolène Royal, révélation sur son parcours et le sort très particulier que l'on réserve aux femmes dans l'arène politique. Confidence sur France Inter, mercredi matin.
Je pense que ceux qui ont vécu par exemple la campagne de 2007 ont un souvenir de cela. Le plus dur, je pense, c'est d'être mis en cause dans son intelligence, d'être traité de folle. C'est très très fréquent d'être traité de folle, de quelqu'un d'incontrôlable. Mais de son propre camp, je pense qu'aucun homme politique n'a connu cela.
Bouffée d'oxygène pour les 280 salariés de l'acierie d'Ascoval dans le Nord. L'offre de reprise du franco-belge Altifor est juste solide. Il faut encore, dans les prochaines semaines, boucler le financement et s'assurer que le carnet de commandes sera rempli. Les salariés reprennent le travail lundi, soulagés mais toujours sceptiques.
C'est comme une partition de musique. Une partition, il y a plusieurs notes. Il y a une note de jouer qui a été validée, qui est bonne. Il reste des autres notes à jouer et c'est ces notes-là qui seront décisives.
Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est du concret. On a un outil de travail qui est super. On sait s'en servir. On est capable de produire. Tout ce qu'on demande, c'est qu'on nous donne du boulot. C'est pas grand-chose.
Emmanuel Macron prend 3 jours de repos en en Normandie à l'occasion du week-end de la Toussaint. On parle de coup de fatigue. Pas du tout, répond le secrétaire d'État Gabriel Attal. Rien que de plus normal.
Voilà, franchement, je vous avoue que quand je vois ce débat depuis hier sur le break de 3 jours du président de la République, je me dis franchement, on est un peu chez les dingues. Moi, je comprends pas qu'on soit dans ce débat, honnêtement, et que ça mobilise autant de temps sur les chaînes info, sur les antennes, de parler de ce sujet-là.
Voilà, le mix de la semaine. Daniel Schneiderman, Arrêt sur image, un site. On critique beaucoup les médias. Que retenez-vous de ces événements qu'on vient de rappeler?
Plusieurs choses. D'abord, par exemple, dans votre mix de la semaine, là, il y a deux sujets qui concernent directement ou indirectement la présidence de la République et l'Élysée. Ségolène Royal, qui a été candidate à la présidence de la République en 2007, et dont, par définition, donc, le livre constitue un objet forcément intéressant pour les médias français. Et ensuite, effectivement, la médiatisation incroyable des 3 jours de vacances de Macron. Enfin, je veux dire, s'il a envie de se prendre 3 jours de vacances, s'il a envie de faire le pont, cet homme a le droit de faire le pont. Ce que je veux dire, c'est que je trouve qu'en général, si vous voulez, les systèmes médiatiques se focalise trop sur le pouvoir politique et notamment sur le pouvoir central et en France sur l'Élysée. Je veux dire, tout ce qui concerne l'Élysée et ce qui tourne autour, les anciens candidats, les futurs candidats, est ultra médiatisé et pas assez sur la société civile. Ce qui me ramène, si vous voulez bien, à Berlin 1933 et à une des raisons pour lesquelles ils ont rien dit, nos collègues. Une des raisons pour lesquelles ils ont rien dit, c'est que pour beaucoup d'entre eux, si vous voulez, ils sont restés coincés à Berlin. Or, dans la capitale, près des ministères, près des sources. Or, la plupart des choses, si vous voulez, la plupart des premières persécutions antisémites, les trucs qui se passaient dans les usines, dans les ateliers, dans les cours d'école, ne se passaient pas à Berlin. Ça se passait dans les petits bourgs, ça se passait dans les campagnes, ça se passait là où il n'y avait pas les médias internationaux. Et par opposition à l'indigence de la plupart des journaux de l'époque, il y a un reportage tout à fait spectaculaire dès avril 33 dans Le Guardian. Le gars du Guardian, il va dans la région de Francfort, et alors là, pour le coup, il va visiter les petits bleds. Et dans les petits bleds, on lui raconte. Enfin, il a beaucoup de difficultés parce que les gens sont morts de trouille. Les gens savent que s'il parle à la presse étrangère, il risque d'être envoyé en camp. Mais quand même, on lui raconte. Là, il arrive à recueillir des témoignages. Il fait un grand papier dans le Guardian que je reproduis dans le livre et qui est tout à fait spectaculaire. Tout ça pour dire que on devrait peut-être davantage désintéresser de ce qui se passe dans les palais de la République et des 3 jours de pont des occupants des palais de la République et regarder de plus près les sociétés.
On revient à ce livre, donc, Daniel Schneiderman, Berlin 1933, la presse internationale face à Hitler, avec, je le disais, des pages stupéfiantes de journalistes, par exemple, cette visite guidée des premiers camps, un article lénifiant du New York Times, un de ses journalistes s'est rendu à Dachau en mars 1933, et il décrit quasiment un camp de vacances.
Oui, il montre un camp de vacances, c'est-à-dire que, alors évidemment, les journalistes occidentaux se battent pour qu'on les autorise à visiter les camps. Dans sa grande mansuétude, le pouvoir nazi donne ses autorisations, Göring donne ses autorisations, mais évidemment, quand il visite ces camps, il visite des camps Potemkin dans lesquels tout a été préparé pour leur venue. Voilà, et donc ça donne des papiers où les détenus expliquent que la bouffe est bonne. Alors que déjà, si vous voulez, à cette époque-là, alors on n'est pas du tout à Auschwitz, on est bien d'accord, on est en 33, donc on est dans des, on n'est même pas encore dans des camps de concentration, on est dans des camps de détention. Mais déjà à cette époque-là, il y a des exécutions sommaires, les détenus qui arrivent sont systématiquement tabassés pour leur apprendre la vie, voilà.
Alors on revient à la question, pourquoi cet aveuglement, pourquoi ce déni, pourquoi cette forme d'autocensure? On l'a dit, certains journalistes ont dit après-guerre, il fallait nous lire entre les lignes. Mais vous, dans votre livre, vous dites par exemple, il y a aussi le rôle des patrons de presse de l'époque.
Alors ce dont il faut bien se souvenir, c'est que, comme aujourd'hui d'ailleurs, la plupart des patrons de presse sont de riches industriels, ça n'a pas tellement changé, hein. Aujourd'hui on parle des milliardaires qui détiennent la presse, et que dans les années 20 et 30, ces milliardaires français, britanniques, américains sont obsédés par une chose, c'est l'expansion du communisme. Leur trouille, c'est que la révolution russe, qui est toute fraîche, fasse tache d'huile. Et donc, quand Hitler arrive en 33, si vous voulez, Alors, dans le pire des cas, il y a un préjugé favorable, c'est-à-dire on se dit il va contenir les rouges. Dans le meilleur des cas, il n'y a pas de préjugé défavorable, c'est-à-dire on se dit voilà. Alors non seulement on se dit il va contenir les rouges, mais on se dit bon, il va pas forcément durer très longtemps. Vous savez ce qu'on pensait au début. On pensait voilà, il va tenir 2 mois, 3 mois, et ensuite les démocrates chrétiens, enfin toute la classe politique traditionnelle allemande va le bouffer.
Et puis, vous le soulignez dans ce livre, l'antisémitisme poussé à son paroxysme chez les nazis, il existait aussi dans de nombreux pays occidentaux, la France, les États-Unis. Alors, dénoncer cette horreur, finalement, c'était pas une priorité?
C'est affreux à dire, mais quand Hitler arrive en janvier 33, l'antisémitisme, vous le dites, c'est pas nouveau, quoi. D'abord, dans les années qui précèdent son arrivée, il y a un antisémitisme très fort en Allemagne. Sous la République de Weimar, il y a un antisémitisme d'autant plus fort que les Juifs sont beaucoup plus visibles après la guerre de 14-18, dans le showbiz, dans le spectacle, dans la banque, dans la presse, on les voit davantage. Donc ça crée de l'antisémitisme. Et puis en France, enfin, je veux dire, n'oublions pas la France. Alors, vous allez peut-être m'en parler, mais moi, j'ai redécouvert un binôme de journalistes absolument sidérants, qui sont les frères Tarot. Jean et Jérôme Tarot, donc, qui n'écrivent pas dans la presse d'extrême droite. Ils écrivent pas dans l'Action française, ils écrivent pas dans Je suis partout, ils écrivent dans la grande presse, ils écrivent dans Paris Soir. Et ils pratiquent une espèce d'antisémitisme, alors, qui n'est pas, ils appellent pas à tuer les juifs, mais ils observent les juifs comme si c'était des insectes ou des papillons, si vous voulez, et ça donne des papiers tout à fait stupéfiants, où on dissèque les mœurs des communautés juives, notamment en Allemagne de l'Est, ils vont dans les ghettos, en Pologne, et ils dissèquent les mœurs des communautés juives, et tout ça, ça passe, et ça passe dans Paris Soir, qui est le journal dirigé par Pierre Lazareff. Pierre Lazareff, qui est juif lui-même, et qui fera ensuite la carrière qu'on sait.
Daniel Schneiderman, le reportage de la semaine, maintenant, dès dimanche et les jours suivants, à l'occasion du centenaire de l'armistice de 14-18, Emmanuel Macron traversera 11 départements dans l'Est et le Nord pour rendre hommage aux combattants de cette guerre. Il va tenter aussi de renouer le contact avec le monde rural, dans ces villages d'un millier d'habitants en général, où aucun chef d'État n'est jamais venu. Près d'un quart des habitants vit sous le seuil de pauvreté. Maxence Lambrecq s'est rendu dans ces territoires délaissés, dans le Nord, à Sars-Poterie, et dans l'Aisne, à La Flamengrie et Rozoy-sur-Serre. Reportage que vous avez pu entendre mercredi matin sur France Inter.
Bienvenue à La Flamengrie. C'est ici que le premier cessez-le-feu a retenti le 7 novembre 1918. Aujourd'hui, on y refait les trottoirs en attendant le président.
Je m'appelle Lounois Gaston. Alors j'espère que monsieur le président de la République m'entend bien.
Gaston est travailleur handicapé, très inquiet pour l'avenir.
On n'a plus de travail. Moi, je vais avoir 52 ans. Mon contrat s'arrête au mois d'avril. Je ne sais pas si je serai repris. Alors, j'ai quand même 10 ans à faire.
Un peu plus loin, devant l'église en briques rouges, Gilles bêche la terre des rosiers.
Je ne voudrais pas changer de coin, je suis très bien dans ma région.
Et pourtant, il voit sa commune s'éteindre peu à peu.
Il y avait beaucoup de cafés, il y avait une boucherie, il y avait une boulangerie. Et aujourd'hui, tout a disparu.
Reste la route nationale Paris-Bruxelles qui pollue et traverse le village et nous amène au bord des Ardennes, à Rozoy-sur-Serre.
Nous, ce n'est pas le village qui est en difficulté, c'est le département complet. Vous avez les statistiques, plus pauvre département de France, enfin d'après ce qui se dit.
Olivier et son épouse tiennent la dernière épicerie de la commune.
Notre situation est aussi géographique. Vous êtes venu comment, vous ?
Avec le TGV à Reims, puis une voiture.
Voilà, TGV à Reims, 70 bornes d'ici. Après l'autoroute, c'est 45 km d'ici, c'est Allant. Au niveau des infrastructures, qu'est-ce que vous voulez qu'une industrie vienne s'installer par ici ?
Mais tout n'est pas si noir, une maison de santé vient d'ouvrir à côté. Alors Olivier relativise.
Nous, ça va, on a un centre-bourg avec des commerces, mais à côté, il y a des villages où il n'y a absolument plus rien. En plus de mon commerce fixe, j'ai mon camion ambulant. Et puis d'ailleurs, je suis désolé de couper court, mais faut que j'y aille.
Comme chaque après-midi, il grimpe dans son camion rouge plein de victuailles. Sa tournée va durer 5 à 6 heures.
Au revoir, merci.
À la station-service, rencontre avec un consultant qui a un message pour le président.
Si on prend le prix du gasoil, moi qui fais 4500-5000 km par mois, vous imaginez un peu l'impact que ça a sur mon activité. Alors maintenant qu'on vient d'expliquer qu'il faut faire un effort pour le climat, nous on veut bien, mais le souci c'est comment nous on se déplace. ici en ruralité, comment on fait ?
Le prix du diesel, cela revient quasiment dans toutes les conversations, notamment à la boulangerie, où la vendeuse renonce à certains trajets.
Parce qu'avant, le week-end, même sans aller au restaurant tout ça, mais on allait bien voir la famille dans les Ardennes tout ça, bah maintenant on y regarde. On se dit, allez, il va falloir refaire un plein qui va nous coûter 60, 70, 80 euros.
Caroline a le sentiment de s'être fait avoir par Emmanuel Macron.
Il fait des cadeaux sur la taxe d'habitation, soi-disant qu'il va nous supprimer. Et total, il augmente des tas de choses à côté, ce qui revient exactement au même.
Dans ces villages, Marine Le Pen a réuni plus de 60% des voix au second tour de la présidentielle, et ça n'étonne personne.
Ici, à Roseau, il y a beaucoup de social. Donc les gens se laissent aller, se laissent vivre, on leur donne toutes les aides possibles imaginables, et puis vous, ben, vous crapahutez toute la journée pour à la limite avoir pour vivre ce qu'ils ont, quoi. Les gens, au bout d'un moment, ils en ont marre.
Direction maintenant le nord et le village de Sarpoterie, où nous attend monsieur le maire.
Je suis élu depuis 1989.
Alain Gillet.
Moi, ce qui m'attriste, c'est l'abstention qui est de plus en plus grande.
Confirmation sur le parking de la Supérette. Mmh. Est-ce que vous avez entendu parler des élections européennes ?
Non.
Non, pas du tout.
Vous votez plus ?
Non, parce que ça bouge pas, donc ça sert à rien de bouger non plus.
Mais c'est pas les représentants du peuple qui gouvernent à l'Europe. Ce sont les gens qui n'ont pas été élus. Alors on se fiche de nous. Moi, je dis toujours, ça ne sert plus à rien de voter.
Difficile de voir ce qu'Emmanuel Macron peut venir apporter à cette France périphérique.
Voilà, reportage de Maxence Lambrecq dans l'Est et le Nord, Daniel Schneiderman. Là, on est loin des palais officiels.
Ah, il est super ce reportage, il est très bien. Ce qui est absolument navrant, c'est qu'il faille une visite de Macron pour qu'on aille dans ces, pour que les journalistes français aillent dans ces endroits, quoi. Mais c'est formidable. Je veux dire, bien évidemment, je pense que les médias français se porteraient mieux si on avait davantage de reportages dans ce genre-là. Vous savez, moi, je m'occupe du site Arrêt sur Image, hein, qui a pris la suite de l'émission de France 5. Et donc, je rédige chaque matin un petit billet, une chronique sur les dominantes médiatiques du matin. Et cette semaine-là, je suis tombé sur l'histoire de la fermeture de la maternité de Leblanc dans l'Indre. Vous avez peut-être vu, il y a une maternité qui va fermer. Les gens de la ville l'ont occupée. Ils ont été expulsés par la gendarmerie là un matin de cette semaine. Et c'est très important pour eux, parce que si les femmes de cette ville ne peuvent plus accoucher à Leblanc, il faut qu'elles aillent accoucher à Orléans, à Châteauroux. Donc c'est 1h30, 2 heures de voiture, hein, comme disait cette dame dans le reportage là. Et quand vous êtes sur le point d'accoucher, faire 2 heures de voiture, c'est pas forcément l'idéal. Et j'ai un peu regardé la manière dont les médias nationaux avaient traité, parce que ça fait des mois que ça dure, cette histoire de fermeture de maternité. Ça fait même des années qu'on parle de la fermer et qu'elle ferme pas. Mais qu'elle va finalement fermer. Et j'ai regardé comment les médias nationaux avaient couvert cette histoire-là. Alors, le gouvernement explique que si la maternité ferme, c'est pas du tout pour des questions de rationalisation des coûts, et que c'est pour des raisons de sécurité, soi-disant que cette maternité n'est pas sécure. Bon, il y a eu un rapport. J'ai essayé de savoir si un média avait enquêté sur la réalité des accusations d'insécurité ou de mauvaises pratiques qui règnent dans cette maternité. J'ai pas trouvé une seule enquête, si vous voulez. Voilà un déficit du système médiatique français.
Daniel Schneiderman, on revient à ce livre, hein, Berlin 1933, l'attitude de la presse internationale face à Hitler. Alors vous dites que ce livre, il est né, chez vous, de l'effroi de Trump. Alors, est-ce qu'il y a des liens, selon vous, entre ce récit que vous faites, entre 1933-1939 et aujourd'hui ? C'est vrai qu'on évoque souvent l'atmosphère des années 30. Emmanuel Macron, il disait hier qu'il est frappé par la ressemblance entre la situation actuelle en Europe et celle des années 30, les peurs, les replis nationalistes et les conséquences de la crise économique.
Alors, il faut être très prudent. Enfin, évidemment, les parallèles viennent forcément en tête. D'ailleurs, la preuve, c'est que l'élection de Trump m'a donné envie de faire ce livre. Je crois que le point commun, si vous voulez, entre l'élection de Trump et le choc de l'arrivée des nazis, le point commun, c'est l'inimaginable. C'est juste l'inimaginable. Quand Trump est élu, en fin novembre 2016, ça fera bientôt 2 ans, Personne parmi les journalistes américains n'imaginait que Trump serait élu. Je veux dire, encore 6 mois plus tôt, si vous voulez, les médias américains classaient Trump dans la rubrique variété et rigolaient quand on leur disait seulement qu'il pouvait être désigné à l'issue des primaires comme le candidat républicain. Tout le monde se marrait. Bon, donc après l'élection de Trump, quand même, les journalistes font une sorte d'examen de conscience et ils se demandent qu'est-ce qu'on a raté. Et ils tombent facilement sur des choses comme celles dont on parlait il y a 3 minutes. C'est voilà, qu'est-ce qu'on a raté? On n'est pas aller assez voir les électeurs de Trump dans les états industriels à la ramasse. On est resté trop entre nous à New York et à Washington. Et voilà. Et d'autres journalistes ont l'idée, justement, d'aller relire les collections de leurs journaux dans les années 20 et 30 pour essayer de voir si leurs devanciers de l'époque ont été plus lucides qu'eux au moment de l'arrivée au pouvoir de Hitler.
Enfin, Trump, c'est pas Hitler.
Mais bien sûr que non, bon, Trump, c'est pas Hitler. Si vous allez me demander si on est dans les années 30 aujourd'hui, je vous dirais, bien entendu, on n'est pas dans les années 30. Alors, c'est vrai qu'on peut avoir l'impression. On peut avoir l'impression, je veux dire, le spectacle donne l'impression. On est dans une époque qui a le goût des années 30.
Mais vous dites...
Salvini, Trump, ouais. Orban, les nationalismes, les réfugiés sur leurs bateaux. Voilà, tout ça, ça a le goût des années 30. En même temps, si vous voulez, ce que j'ai découvert en épluchant toutes ces collections de journaux, c'est quand même dans les années 20 et 30, on est tout de suite après l'armistice et le traité de Versailles en 1919, donc dans une Allemagne qui est profondément humiliée par le traité de Versailles, qui a soif de revanche, et ça explique Hitler. Bon, on n'a pas aujourd'hui un pays en Europe qui soit dans cet état d'humiliation.
Mais vous dites, Daniel Schneiderman, que les journalistes ont échoué à empêcher l'élection de l'outsider bouffon Trump. Mais est-ce que c'est notre rôle d'empêcher l'élection d'un candidat? Moi, je sais que les journalistes de France Inter, aux États-Unis, à l'époque, on a été faire des reportages, on a interrogé les électeurs de Trump, on a raconté son programme de politique intérieure et extérieure. Après, les électeurs, ils choisissent.
On est bien d'accord, mais ils ont essayé. Ils ont essayé. Je veux dire, vous prenez le New York Times, vous prenez CNN, vous prenez le Washington Post. Ils ont tout fait pour empêcher l'élection de Trump. Donc, de leur point de vue, oui, ils ont échoué. Maintenant, si vous me demandez si c'est le rôle de la presse d'empêcher l'élection d'intervenir dans une élection, je vous dirais non, dans l'absolu, c'est pas le rôle de la presse. Après, la presse a le droit aussi, si vous voulez, face à un candidat qui quand même souvent dit n'importe quoi et manie le mensonge, la presse a non seulement le droit, mais le devoir de rectifier tous ces mensonges.
Vous dites, il faut rapporter des faits, mais il faut aussi éveiller les consciences.
Oui. C'est une des difficultés d'ailleurs qui nous ramène toujours aux années 30 et pour le coup aux années 40. Et là, si on fait un petit saut dans le temps, qu'on arrive aux années 40, c'est-à-dire 42-43, au moment où l'extermination des Juifs est vraiment en cours, là, ce qui va se passer dans la presse, c'est très différent. C'est-à-dire que les informations vont être données. Mais vont être données dans des brèves.
En page 7 dans le New York Times,
en page 7
dans votre livre.
Ou 18.
L'extermination des Juifs en 42, page 7.
Ou 18, ou 24. Comme si les journalistes qui donnent ces informations n'y croyaient pas eux-mêmes. Et évidemment, quand le lecteur a l'impression que le journaliste qui donne l'information n'y croit pas lui-même, évidemment, le lecteur, il n'y croit pas non plus. Et il y a un journaliste qui a dit un truc très juste. Après la guerre, quand on l'interrogeait justement là-dessus, et qui a dit, est-ce que j'ai su que l'extermination était en cours? Oui, je l'ai su. Est-ce que je l'ai dit? Oui, je l'ai dit dans mon journal. Est-ce que j'y croyais moi-même? J'y croyais à moitié.
Daniel Schneiderman est notre invité dans Une semaine en France. Petite pause musicale avec Étienne Daho, son 11e album, Nappes électroniques, guitare lancinante, Voodoo Voodoo.
Après. de manière complexe. Ton corps tressaille, contorsion cosmique et subtil réflexe. Sortilèges exquis dans ton vortex. Et je plonge dans ton vortex. Et je plonge dans ton vortex. Je suis ton totem, ton monstre sacré. Je suis ta tribu, l'agneau sacrifié. La jungle brise de prières étranges, mélodies complexes. Provoque des ondulations cosmiques qui laissent perplexe. Sortilèges exquis dans ton vortex. Et je plonge dans ton vortex. Et je plonge dans ton vortex. Ce soir tous les anges sont voodoo, voodoo. L'astre mauve me pique les yeux. J'épouse tous tes soupçons périlleux. Jusqu'aux cieux. Et je plonge dans ton vortex. Et je plonge dans ton vortex.
Étienne Dao, Daniel Schneiderman est notre invité à l'occasion de la parution de ce livre formidable, époustouflant, La presse internationale face à Hitler, Berlin 1933. Cette presse étonnamment tiède face aux horreurs qui se préparaient, qui se faisaient. Daniel Schneiderman, on revient à 2018, le fondateur du site Arrêt sur Image, le créateur de l'émission Arrêt sur Image. Votre dernière indignation médiatique?
Ma dernière indignation médiatique, je suis pas sûr que je sois quelqu'un de très très indigné.
Ah, parfois quand même. Hein.
Je suis pas sûr que je sois quelqu'un de très très indignable. En tout cas, je suis pas sûr que l'indignation de la part d'un journaliste soit toujours très mobilisatrice. Je pense qu'il est paradoxalement peut-être plus facile de faire partager des motifs d'indignation en résistant soi-même à l'indignation. Et je dépense beaucoup d'énergie, si vous voulez, à résister à mes propres indignations. Par exemple, je vous parlais à l'instant de la sous-médiatisation de cette fermeture de maternité dans l'Indre. Ça m'indigne.
Oui.
Ça m'indigne qu'on laisse des gens dans cet état-là, qu'on laisse des gens sans équipement collectif, qu'on ferme les postes. Ma dernière indignation, elle date de ce matin. On a appris ce matin, alors je sais pas si c'est vrai, mais j'ai en tout cas c'était ouais. ça a couru sur Twitter. On a appris ce matin que dans la gare Montparnasse et dans la gare de Lyon, on ne pourra plus acheter de billets de train pour d'autres jours que les départs le jour même, et qu'il faudra acheter désormais ces billets de train sur Internet. Par contre, on est en train de construire des boutiques et des boutiques et des boutiques où on vend des cosmétiques et des fringues dans les gares. Bon, je suis profondément indigné de ça, parce que je pense qu'une gare, c'est fait pour que les gens puissent prendre le train, parce que tout le monde n'est pas capable de se connecter à Internet, tout le monde n'est pas capable d'acheter ses billets sur Internet, et je préfère que les gens puissent acheter des billets de train. Bon, alors après, si j'exprime cette indignation de cette manière-là, ça avance à quoi ? Pas à grand-chose. Ce qu'il faudrait faire, et ce qui serait plus intéressant, c'est d'enquêter sur les raisons pour lesquelles toutes les gares françaises, si vous voulez, sont en train de se transformer en centres commerciaux, et tout le monde trouve ça très bien.
Qui va gagner la bataille de l'information à venir ? Les médias institutionnels ou les réseaux sociaux? Est-ce qu'on va devoir s'habituer, Daniel Schneiderman, à la présence de ces réseaux sociaux infestés de mensonges, de fake news?
Oh là, comme vous y allez, comme si les médias institutionnels étaient la blanche colombe qui ne dit la vérité. N'exagérons pas, il y a des manipulations partout. Vous savez, je suis un très mauvais prophète. Quand j'ai commencé à arrêter sur image il y a 10 ans, enfin quand on a été viré de la télé et qu'on est donc passé sur Internet, moi j'étais persuadé que les nouveaux médias, les médias Internet, les médias numériques allaient bouffer les anciens médias. Bon, je me suis totalement trompé, si vous voulez. On est ce soir à France Inter, je suis très heureux d'y être. France Inter se porte très bien. France Inter continue à être une radio influente. Voilà, ce qui s'est passé depuis...
Qui fait de l'information crédible, sérieuse.
Qui essaye, en tout cas. En tout cas, c'est ce qu'on vient d'essayer de faire pendant l'heure écoulée, là.
Ouais. Loin de ce qu'on peut lire sur certains réseaux sociaux. On lit des choses épouvantables. N'importe quoi.
Ben, si vous voulez, je vais vous dire une idée reçue, mais je pense que les réseaux sociaux, c'est le pire et le meilleur. C'est le pire parce que effectivement, on y lit des choses absolument épouvantables, comme vous dites. Et en même temps, ça a été, quand ils sont apparus, si vous voulez, une espèce de grande bouffée d'oxygène qui a permis de s'exprimer à des groupes qui jusqu'alors n'avaient pas accès aux médias traditionnels. Je pense que dans le combat contre le racisme, dans le combat contre l'homophobie, je pense que les réseaux sociaux ont fait énormément. Et on fournit une sorte d'aiguillon, si vous voulez, aux médias traditionnels. Donc, si vous demandez au très très mauvais prophète que je suis ce qui va se passer dans les 10 ou 20 dernières années, je vous dirais, j'en sais rien. Je pense que la recomposition va continuer à se produire. Parce qu'en même temps, quand je vous dis que les médias traditionnels ont gagné la partie, oui, ils l'ont gagné, mais les médias en ligne et les réseaux sociaux se sont installés d'une manière, je pense, définitive, comme source alternative d'information. Voilà, maintenant, les forces sont en présence. Qui l'emportera, je me garderai bien de le prédire.
Les tromperies médiatiques, les manipulations, les coups de com', les bidonnages, c'est une pratique courante hein, sur le net. Êtes-vous un pionnier, Arrêt sur image, qui est maintenant submergé par la concurrence?
Oui, il nous faut à nous, alors médias en ligne, indépendants, numériques, immergés effectivement dans ces réseaux sociaux, il faut maintenant qu'on se tourne des deux côtés, c'est-à-dire qu'on regarde où sont les manipulations éventuelles des médias traditionnels. Et vous savez que vous en êtes accusé aussi quand vous regardez vous y faisiez allusion tout à l'heure, les récentes perquisitions à la France Insoumise et chez Jean-Luc Mélenchon. Les gens de la France Insoumise disent mais enfin, la cellule d'investigation de Radio France a dit n'importe quoi. Nos factures n'étaient absolument pas surévaluées, surfacturées. De fait, nous, par exemple, dans Arrêt sur image, on a fait une enquête pour essayer de savoir si, en effet, oui ou non, les factures de Sophia Chikirou à la France Insoumise étaient surfacturées. On a trouvé, excusez-nous, que c'était les tarifs normaux. Oui, voilà. Donc, si vous voulez,
chacun fait son enquête, chacun a ses conclusions.
Absolument.
Nous, on a conclu qu'il y avait des factures très très élevées. Ça, vous pouvez l'accepter.
Vous avez conclu qu'elles étaient élevées par rapport, si vous voulez. Non, mais on va pas rentrer dans les détails, puis je vois qu'il est 18h59, ce serait un peu long.
C'était un plaisir de vous recevoir, Daniel Schneiderman, et je recommande ce livre d'histoire qui permet de revivre une époque, ces années 30, Berlin 1933, la presse internationale face à Hitler, s'est paru au Seuil. Merci, Daniel Schneiderman.
Merci de m'avoir reçu.